Oxford,
mécanisme velouté,
mixage fusionnel.
Bonsoir, c'est la deuxième plateau de ce soir et je suis avec Lisa Guillamotte à côté de moi pour parler de son film Zone Grise qui est sélectionné dans la compétition long métrage. Et à mes côtés aussi Olivier et Nicolas. Bonsoir Lisa, vous allez bien ?
Bonsoir, oui ça va, merci.
Pour situer brièvement votre film, c'est un documentaire déjà. C'est un documentaire qui nous transmet, qui nous transporte dans l'écho des polices à Saint-Malo. Donc, nous suivons les parcours de policiers, on peut dire officiers apprentis, ou ce sont des stagiaires qui commencent leur parcours dans l'école. Et on le suit, je pense, au cours d'un an, alors qu'ils participent aux cours techniques, pratiques. Une immersion très très intéressante, très aussi déstabilisante, disons, dans un univers qui n'est pas très, qui est assez difficile à parler, surtout dans le contexte actuel sur l'imagerie de la police qu'on est habitué à voir dans les médias, dans les films, dans les séries télévisées. Donc c'est assez un sujet, disons, plutôt sensible. Donc c'est pour ça que je voulais vous poser cette question sur les représentations, parce que la force policière, il y en a beaucoup différentes manières de parler. Il y en a déjà eu pas mal de films, on les voit souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs angles qu'un cinéaste, une cinéaste peut aborder. La force de police, les gardiens de la paix aussi. Donc la force de police, les gardiens de la paix. Mais vous avez choisi... c'est un particulier qui est l'école de la police, donc où l'apprentissage, une sorte de, peut-être le formatage c'est trop violent pour parler de cette éducation, mais cet apprentissage commence. Pourquoi vous avez choisi cadre particulier au lieu de privilégier une autre? Parce que vous avez très bien peut-être suivre d'autres trajets, d'autres trajectoires, mais cette école, cette institution plus cadrée, une sorte de huis clos, disons, d'où est venue cette école? Comment vous avez croisé?
Oui, alors huis clos, c'est absolument ça, et c'est ce qui m'intéressait. En fait, je me posais beaucoup de questions et j'arrivais pas à avoir de réponse à ces questions. Et je me disais que du coup, il fallait aller à la racine des potentiels problèmes. On m'a beaucoup dit d'ailleurs à ce moment-là, ça sert à rien, là-bas c'est la vitrine lisse, c'est le moment où on donne toutes les bonnes informations et c'est après que ça se passe. Peu m'importait, et surtout, j'ai l'impression que les images de ce qui se passe dans nos rues aujourd'hui, on les a beaucoup dans les médias. Ce qui nous manque, c'est plutôt ce qui se passe avant, ce qui est l'aspect très fermé et secret de l'institution. Et les écoles sont des endroits fermés au public. C'est très difficile d'y entrer. Et moi, j'ai l'impression que l'éducation est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, ce sont des choix politiques qui se font là. Et ça m'intéressait beaucoup d'aller voir ça. Et l'aspect huis clos, complètement coupé du reste du monde, en dehors de l'actualité, très préservé, malé aussi, pour avoir le temps de comprendre les choses et de pas être dans quelque chose de l'émotion vive de ce qui se passe à l'extérieur.
Plutôt une question pratique, parce que on peut s'intéresser à la police de manière très générale, mais comment commencer la recherche? Parce que j'imagine qu'il y a une longue durée de recherche, de préparatif pour arriver finalement à pouvoir filmer. Parce que sans avoir des références particulières à l'apprentissage, au processus de... Parce qu'on parle d'une sorte de lingo, un langage très précis de l'institution. Donc il faut, j'imagine, que familiariser avec l'univers policier. Est-ce que c'était déjà une partie familière de votre... comment dire, est-ce que ça faisait déjà partie de votre connaissance, ou c'était avec ces questions que vous avez commencé à faire de recherches et s'intéresser plus précisément sur le sujet?
Ben, en fait, je fais partie d'une génération qui a grandi quand même avec ces questionnements en étant dans la rue, en les rencontrant beaucoup sans les rencontrer. Donc, à la fois, c'était un groupe auquel j'avais été beaucoup confrontée, mais un groupe constitué par des personnes que je ne connaissais pas du tout et dont je ne connaissais pas les codes et dont je ne savais pas comment ils étaient notamment formés. Donc, on ne peut pas dire que j'avais préalablement beaucoup de connaissances là-dessus. Après, j'ai évidemment beaucoup lu, parce que ça fait partie de mon mode de travail. Je lis beaucoup avant d'écrire mes films. Je lis presque tout ce qui existe sur un sujet. Et il y a un sociologue qui s'appelle Fabien Jobard qui a beaucoup écrit, Mathieu Rigouste également, Jean-Marc Berlière, un historien de la police qui est vraiment hyper intéressant. Donc, j'avais une connaissance historique, mais il me manquait ce contact-là. Enfin, l'intérêt pour moi dans ce film, c'était d'aller rencontrer des individus pour casser un peu cette image du groupe où il n'y a plus d'individus, où c'est vraiment un bloc compact.
Moi, j'avais une question, Lisa Guillemot, c'est par rapport au fait que, bien sûr, les portes d'une institution aussi close, aussi muette, et aussi secrète que la police nationale française ne sont pas par définition faciles à ouvrir. Alors moi je voulais savoir comment vous avez réussi ce tour de force et d'entrer dans cette forteresse. Il a fallu, j'imagine, beaucoup de patience et une force de persuasion. Vous pouvez nous en parler ?
Beaucoup de patience, oui. J'ai expliqué très clairement qui j'étais, ce que je faisais, c'est-à-dire que je n'étais pas journaliste. Et je n'ai rien contre les journalistes, mais c'est beaucoup de ça dont ils se méfient. Et bizarrement, c'est quand même uniquement des journalistes qui rentrent, mais qui rentrent très peu de temps, genre une journée ou deux maximum, en ayant dû préalablement expliquer tout ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils voulaient filmer, à qui ils voulaient parler, soumettre des questions, que les réponses soient préécrites. Enfin, moi, exactement. J'ai eu l'occasion, quand enfin on m'a laissé rentrer, ils ne mettaient pas en œuvre tout ça juste pour moi. Donc, j'ai accompagné des journalistes qui venaient faire des sujets et j'ai vu à quel point c'était complètement incompatible avec ma manière de travailler. Et ça m'a permis leur expliquer et dès le début que voilà, moi, je ne travaillais pas comme ça, que c'était... j'étais une auteure, une artiste, que je faisais un travail de recherche long, que... J'écrivais pendant longtemps, enfin, et j'ai l'impression, bon, je pense qu'ils n'avaient pas l'intention au début de me laisser rentrer, ça s'est passé parce que au fur et à mesure j'en ai parlé et on m'a aidée à ce que ça devienne possible, mais je pense aussi quand j'ai eu des discussions finalement avec eux, ça leur allait que ce soit pas un énième travail genre de documentaire M6 investigation, voilà.
Parce que votre manière de travailler en tant que documentariste, c'est le temps long.
C'est le temps, ouais.
Combien de temps a duré le tournage ?
Alors, le tournage, il s'est passé sur une année. Enfin, pas tous les jours, évidemment, hein, mais sur une année scolaire entière. Mais moi, j'ai fait 3 ans de repérage avant.
Alors, repérage où vous vous êtes fait connaître, entre guillemets, ou vraiment repérage des lieux géométriquement ?
Ah non, non, repérage... où j'ai passé du temps avec des promotions les unes après les autres pour pouvoir, à force de mes passages qui étaient de plus en plus longs. Au début, c'était quelques jours, puis après des semaines entières, puis plusieurs semaines. Et j'essayais comme ça de voir un peu toutes les périodes de leur année scolaire pour voir ce qui était hyper important à garder. Parce qu'évidemment, une année, pour en faire une heure, c'est compliqué. Et je voulais que ce soit le plus juste possible.
Est-ce qu'il y a des contraintes administratives ou plutôt des contraintes qui venaient de la part de l'éducation ou de l'école qui vous motivaient à privilégier telle ou telle partie de leur apprentissage que l'autre? Donc, je suis curieuse de savoir comment vous avez construit, parce qu'il y avait des blocs ou de blocs de cours dont nous sommes témoins, mais... Il me semble qu'il y a aussi des côtés plus qui vient plus de la formalité ou de ce que peut être montré et ce qui ne peut être. Est-ce qu'il y avait des moments, des étapes ou que vous avez filmé ou peut-être que vous n'avez pas eu accès à filmer?
Alors il y a des choses. Enfin, de toute façon, je n'ai filmé que ce qu'ils ont bien voulu me laisser filmer, même si le fait que j'ai passé beaucoup de temps fasse que, à force, je puisse un peu plus librement circuler. Mais il y a des choses très clairement auxquelles c'était ferme, je n'aurais pas accès, notamment des conférences sur tout ce qui est services secrets, tout ça. Enfin bon, là, on comprend aisément pourquoi. Et de toute façon, c'était pas mon but d'aller chercher ce genre de détails. Donc, après, moi, en fait, un documentaire, c'est toujours un point de vue. Enfin, quand je dis je suis pas journaliste, c'est justement, j'essaye pas d'avoir cette neutralité qu'on demande à un journaliste. Je décide où je vais. Alors là, dans ce film-là, ce qui m'intéressait, c'était moi de déposer tous mes a priori à la porte, à l'entrée, et d'aller voir ce que ça me faisait de m'immerger physiquement. Au départ de mes repérages, j'avais le droit de parler à personne. On m'a très vite expliqué que j'aurais le droit de montrer le visage de personne. J'avais pas le droit d'avoir d'échange pendant, mais pas non plus, surtout pas à l'extérieur. Enfin, au début, je voulais faire le portrait d'un jeune ou d'une jeune. C'était absolument impossible. Du coup, j'ai fait le portrait d'un groupe de jeunes, et pour essayer de les rencontrer un peu, j'ai passé du temps physiquement à leur côté, sans pouvoir réellement échanger. Et je ne sais plus d'où on est parti pour que je vous raconte ça, mais...
Non, mais c'est un point très pertinent, parce que je voulais justement venir sur ce point, parce que j'ai l'impression que surtout dans les documentaires sur les institutions, une approche très répandue, c'est de suivre les trajectoires d'un personnage qui nous donne accès à la fois au niveau personnel, mais aussi au sentiment collectif et de l'institution aussi. Mais je pense que c'est une difficulté que vous maîtrisez très, très bien dans le film, qu'on sent une sorte de sensibilité, affinité par certains visages, même si on va en revenir, mais même si ce ne sont pas leur visage, on aperçoit quelques petits moments où on comme ce sont des glitches sur leur visage, on aussi on arrive à percevoir ces moments d'intime, par exemple le moment où il essaie de tirer la jeune femme qui a ce moment très très bouleversant, par exemple, c'est un exemple. Si vous voulez un peu parler aussi, rebondir là-dessus, sur ce moment intime que vous avez pu vivre avec eux, où vous étiez vraiment mis à distance en tant que cinéaste. Est-ce que vous avez une sorte d'imposer, de vraiment mettre à vous, comment dire, conserver vous-même par rapport à leurs interactions?
Je suis pas sûre d'avoir complètement bien compris, mais parce que j'ai l'impression que je suis absolument pas à distance, dans le sens où je suis complètement collée à eux tout le temps. Enfin, je suis avec eux, et ça, c'était possible. Alors, c'est à la fois, je dis collée, c'est pas juste, parce qu'en fait, ces années à ne pas filmer, mais à vivre physiquement à leur côté, et du coup, bah, comme je pouvais pas discuter, j'assistais aux cours, je faisais du footing, je faisais des cours de combat avec eux. Enfin, c'était vraiment vivre ensemble. Ça m'a permis de savoir où était pour moi et pour eux la juste distance où me placer. Mais par contre, j'ai tourné ce film uniquement en plan fixe, donc j'ai choisi, à force de me trouver dans des endroits, l'endroit qui était le plus adapté où me mettre. Et là, tout le monde me voit, et la personne qui ne veut pas être devant la caméra peut s'en aller. Je ne suis pas qui que ce soit. Donc c'est là où je dis, je suis pas sûre d'avoir totalement compris la question, parce que j'ai pas l'impression d'être à distance d'eux.
Je pense que c'est des distances plutôt discursives.
Ok.
Parce que la distance plutôt dire ou diriger le regard vers quelqu'un, ou vers un message, ou vers c'était plus ça.
Et puis c'est vrai que le film donne vraiment le sentiment que le lieu préexiste à ces personnes qui sont finalement que de passage. Et c'est pour ça que votre choix, je trouve, du plan fixe et d'une composition assez géométrique, très géométrique même au début des plans, fait bien écho à cette idée de forteresse. Dieu sait qu'à Saint-Malo, il y en a des forteresses. Alors il y a celle-ci que pas grand monde, pas beaucoup de touristes ont pu visiter, je pense. Et du coup, ouais, je voulais savoir, vous aviez déjà en tête, lors de ces moments de repérage dont vous avez parlé, c'est là que vous avez défini vraiment la manière dont vous alliez fabriquer vos images, en termes de composition, en termes de cadrage, en utilisation de focale, etc.
Oui, en fait, je même en n'ayant pas de caméra entre les mains, je regardais et effectivement cette rigidité, mais à la fois aussi ce qui, alors c'est très militarisé, ce qui est quelque chose qui moi m'impressionne terriblement, puisque la police n'est pas l'armée et les policiers ne sont pas des soldats, donc j'étais très impressionnée par ça, par effectivement ce décor et ces bâtiments qui représentent l'institution lourde, écrasante et enfermante, et donc ça allait totalement avec ça, cette envie aussi de ne surtout pas bouger avec ma caméra pour ne pas donner l'impression que je suis en train de traquer quelque chose, mais en me disant, voilà, je suis là, on me voit, celui qui ne veut pas être devant, il ne vient pas. Et aussi parce que ça permettait de faire des plans qui allaient avec toute cette rigidité et qui les laissaient à l'intérieur passer dans quelque chose de très chorégraphique. C'est incroyable, mais c'est pas les mouvements de danse qu'on préfère, mais c'est très chorégraphique. Leur corps...
Oui, enfin, la chorégraphie moi, ça me de la troupe beaucoup. Aussi. Enfin, ouais. Non seulement les scènes d'émeutes, par exemple, simulées, ou de combats, de corps à corps, d'entraînement, mais il y a aussi un moment donné où voilà, tous les corps bougent au diapason et où on est vraiment dans une formation d'une troupe, comme ça. Et je voulais savoir, parce que l'instructeur qui enseigne notamment les techniques de combat au début, explique aux élèves qui sont dans un lieu... où potentiellement ils pourront aussi, enfin ils sont pas là pour faire du tourisme évidemment, Saint-Malo, mais ils pourront quand même aller en bord de mer pour voilà, travailler physiquement par exemple, peut-être sur la plage, des choses comme ça. Est-ce que vous avez filmé certaines scènes en dehors de l'enceinte, auquel cas bah, vous avez choisi de ne pas les montrer?
Oui, alors il y a énormément de choses que j'ai pas pu mettre dans ce film parce que j'avais 80 heures de rush et que c'est beaucoup. J'ai filmé, ils font du footing essentiellement sur le sillon, c'est comme ça que oui, ça s'appelle sillon, ouais. À Saint-Malo, donc vraiment au bord de la plage. Il y avait des images très belles, mais en fait, ce film, tous les visages devaient être modifiés, ce qui était, genre personne ne croyait que j'allais finir par terminer ce film parce que c'était une espèce de défi incroyable et pour ça il fallait que ce soit le moins long possible et donc du coup aussi une des missions c'était de resserrer le montage le plus possible parce que ça coûtait une fortune et que le cinéma documentaire n'est pas assez financé pour qu'on puisse tout à coup faire des effets spéciaux à 2 millions d'euros donc oui j'ai filmé dehors mais aussi en plus du fait qu'on ait dû resserrer à un moment donné ça a été assez clair que tout se passait dans un huis clos et que la puissance de ce qui était hors champ allait raconter aussi beaucoup de choses de leur rapport à l'extérieur, de nous, de en dehors de ça, de ce que ça veut dire. Donc c'est des choses que j'ai pas montées. Non.
Je voulais revenir sur le point des effets visuels, mais avant j'aimerais poser une autre question sur ce que vous avez dit sur la prison, l'armée. Ce sont des métaphores qui reviennent, mais il y a aussi un aspect un peu ludique. Il y a un côté jeu parce que qui crée une tension très très intéressante au sein du film parce que c'est quand même une institution d'apprentissage. C'est une école au sens littéraire. Littéral de thème, et on le voit des jeux de la mise en scène, des jeux de reconstitution des situations d'interpellation, de meute. Donc il y a un jeu, parce qu'il assume de rôle aussi dans ce, disons, jeu, j'utilise un jeu entre guillemets, mais il aussi joue de jeu, on le voit, il y a une scène dans laquelle il demande est-ce qu'on peut jouer de jeu de société. Donc il y a une vraie tension entre le côté ludique, disons, de leur quotidien, mais le système auquel ils appartiennent. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tension et comment, pourquoi vous voulez, disons, pas pourquoi, mais qu'est-ce que vous sentez en filmant ces scènes, peut-être ?
Oui, c'est quelque chose qui, moi, me questionnait beaucoup et m'intriguait et parfois me fascinait, mais genre, c'était très compliqué. C'est un peu le mauvais théâtre, le jeu en permanence, et aussi en face, il y a la mort. tout le temps. Parce que ce sont des jeunes personnes qui parlent beaucoup de jeux vidéo qui mettent en scène parfois des policiers qui tuent des gens.
On les voit même jouer, hein.
Oui, enfin. Voilà. Ils sont tous très fans de jeux. Je pense qu'il y en a à qui ça a donné envie de faire ce qu'ils font également. À la fois, il y a le côté jeu encore enfantin quand ils jouent au loup-garou. Mais le loup-garou, c'est aussi le jeu et la mort parce que on parle que de personnes qui vont mourir, de comment ça va se passer. Et puis après, même dans la réalité de la formation, l'heure suivante, ils ont des fusils mitrailleurs entre les mains. Et moi, j'étais là et je me disais, waouh, c'est vertigineux, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, c'était évident qu'il fallait que ça existe dans le film, cette
Il y a un autre
friction.
Un autre niveau de jeu, je pense que c'est la manière dont on intériorise la représentation de policiers dans le cinéma, dans la télé. Parce que quand il jouait le rôle de police qui interpellait la victime, ou le personnage du victime ou de ceux qui sont arrêtés, il y a des codes ou de lieux communs qui me fait penser à des films où on voit des personnages des polices. J'avais l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui alimente aussi la perception des officiers eux-mêmes qui font l'image, qui leur fait leurs propres images. Et ce qui était un point très très impressionnant pour moi, parce que nos imaginaires collectifs des polices sont nourris par ces représentations aussi.
Oui, et ces jeunes gens, quand ils arrivent là, ils ont, comme ce ne sont pas des endroits accessibles, que le recrutement se fait sur une forme de communication de que ce qui est intéressant à montrer, du coup les images qu'ils ont sont complètement décalé d'une forme de réalité. Ouais.
Oui, ce sont des clichés, en fait. Mm. Et même inversement. Mm. C'est-à-dire que par rapport à la police, mais par rapport aussi à ceux que parfois la police interpelle plus souvent dans certains endroits de la cité. Le film, c'est un film de formation. C'est un voyage certes immobile, mais initiatique. Parce qu'au début du film, on voit qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit la France, enfin la jeunesse française. Dans une salle réunie, de tous les styles, dans sa diversité. Mais à la fin du film, il s'est passé quelque chose, parce qu'à la fin du film, on voit plus la jeunesse française, on voit la police française. Mm. Il y a comme quelque chose qui s'est passé là. C'est la zone grise, elle est où
Moi, je cherchais ça. C'est un point de bascule, mais j'ai pas trouvé un point de bascule net, et je me doutais bien que j'allais pas trouver un point de bascule net. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ressentir dans ce film, où j'ai pas envie de dire des choses. C'est pas un film informatif, j'ai pas envie de donner mon avis. J'ai envie de faire sentir au public, au spectateur, ce que moi j'ai senti en y étant. Et c'est ça, exactement. C'est genre, il se passe quelque chose là, mais il se passe pas quelque chose de net. Et on dit pas franchement des choses. C'est très très insidieux, c'est sournois, c'est dans un quotidien qu'on se formate. Tout à l'heure, vous disiez formatage, c'est un peu fort. Moi, je crois pas que ce soit fort. Je crois que c'est ça. Bon, c'est le cas dans plein d'autres formations que la formation de la police, hein, mais là, en l'occurrence, ce qui m'importait, moi, c'était de pouvoir me questionner sur de jeunes gens qui viennent avec tous ces idéaux, toutes ces envies, et qui vont quand même être des gens qui vont avoir un pouvoir énorme, qui vont être armés, qui vont avoir des responsabilités énormes. Et ça, il faut être formé à ça. C'est vraiment hyper important. Et donc, là, il y a une transformation, mais qui n'est pas très nette, parce qu'en fait, la conclusion, c'est quand même que si on forme ces jeunes gens aux questions de responsabilité, ils vont se poser des questions et ils vont s'en poser trop. Et donc, ils ne vont plus agir. Et c'est tout le problème, c'est que du coup, on les forme comme des militaires, alors qu'ils ne sont pas des soldats, ils sont censés être des citoyens au service d'autres citoyens. Et cette discussion, elle devrait être collective sur la place publique en permanence, et ce n'est plus le cas. Et c'est là la zone grise, à mon sens aussi.
D'où aussi l'étanchéité du dispositif qui empêche finalement cette circulation des échanges avec la société.
Oui, et qui empêche qu'on puisse arriver à des situations qui ne sont pas celles qui est celle de nos rues en France aujourd'hui.
Néanmoins, il y a un plan qui sort de l'enceinte, assez bref, une nuée d'oiseaux qui dérive comme ça dans le ciel. J'ai l'impression que c'était pas en tournée en Bretagne, je me trompe?
C'est absolument tourné en Bretagne.
Il y a des montagnes en Bretagne? Bah oui, il y a les Monts d'Arrée.
Et ouais, c'est tourné du haut d'un grand bâtiment à Douarnenez, dans la ville où je vis. Quelques mois après la fin du tournage, où j'avais grand besoin de reprendre ma respiration.
C'est le ménésome qu'on voit au loin, voilà. Alors. Magnifique.
Et depuis le début de ce film, je me disais, il y aura des oiseaux. Et puis, en fait, il se trouve que les fois où j'ai tourné, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux à Saint-Malo, parce que c'est au bord de la mer, donc il y avait des goélands, qui j'adorais au moment des cérémonies sur la place d'armes, où tout le monde est très très rigide, faisait exactement l'inverse de ce que tout le monde faisait, marchait à l'envers, venait. Donc je me disais, il y a quelque chose à jouer avec les oiseaux, et ce plan-là, je l'ai tourné quelques mois après, et je me suis dit que c'était important qu'il y soit pour que nous aussi on reprenne notre respiration.
Revenons au point, le dispositif le plus important du film, c'est les effets visuels. Mm. Je pense que c'est un point très, très important parce que pour moi, surtout dans les films documentaires, les émotions, l'expression, les sens viennent du visage humain. Alors que là, comme ça fait partie des droits de réserve, n'est-ce pas? Droits de réserve,
devoir de réserve.
Devoir de réserve. On vous montrez pas le visage des officiers, donc vous utilisez un dispositif technique et numérique qui change le visage. Et moi, je voulais savoir à quel point on change l'expression. Qu'est-ce qu'il reste et qu'est-ce qu'il a changé? Ou bien, est-ce que vous avez le contrôle sur chaque individu? Parce qu'il y a des individus qu'on voit de manière plus récurrente que les autres. Ce ne sont pas des personnages qui sautent aux yeux, mais c'est, quand même, on le suit, on le reconnaît. Donc, est-ce que vous avez des décisions créatives? C'est bizarre de dire créatif sur ça, mais des décisions de vous ajouter des visages. Comment ça s'est passé de manière...
Alors, voilà. Il y a plein de questions déjà là. Ah. Wow. Déjà, pour commencer, le fait que je n'ai pas le droit de montrer les visages n'a rien à voir avec leur devoir de réserve. Le devoir de réserve, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Ça, c'est une chose. Et il se trouve qu'au moment où j'ai tourné, moi, il y avait l'état d'urgence, il y avait des problèmes de terrorisme. Mais c'était aussi à un moment où la loi de sécurité globale n'était pas loin de passer et où ils disaient tous qu'ils ne voulaient plus qu'on voit leur image. Donc ce que je respecte, ce que j'ai accepté de respecter dès le départ, parce que ça me permettait aussi de filmer comme j'avais envie de le faire, c'est-à-dire de filmer des êtres humains et pas des nuques, des pieds, des mains, ou de flouter tout le monde, ce qui était inimaginable. Je ne faisais pas de film si c'était ça. Ça, c'était très clair dès le début. Donc, voilà. Mais c'est, enfin, juste pour préciser ça, parce que c'est important politiquement. et après, donc, dès le départ, je savais que j'allais devoir faire un travail sur les visages et je savais que j'allais filmer des visages. Et je savais que ce qui était très important pour moi, c'était de perdre aucune expression. Parce que j'avais besoin qu'on s'attache à ces personnes. Tout simplement pour qu'on sente ce qu'on était en train de leur faire, en fait. Et je veux dire, la montée progressive de la violence tout au long du film, si on ne s'était pas attaché à des personnages, on ne la sentirait pas, puisqu'en fait, c'est devenu hyper banal dans notre société, et donc on ne la sent plus, cette violence. On y prête plus attention. J'ai fait beaucoup de recherches sur plein de manières de travailler, et celle-là m'est apparue intéressante pour plein de raisons, et notamment une raison politique, c'est que, bon, déjà, c'était techniquement, ça allait coûter beaucoup moins cher, si tant est que je trouve les personnes qui soient capables de le faire, puisque ce ne sont pas des logiciels professionnels, donc les studios de post-production ne sont pas du tout habitués à travailler avec ça. Et ce sont des logiciels qui ont été développés par des hackers pour faire des fausses informations. Et pour développer ces logiciels, ils se basent sur les algorithmes très, très perfectionnés des logiciels de vidéosurveillance russes, chinois. Donc là, ça commençait à m'intéresser aussi politiquement de retourner une nouvelle fois les choses pour pouvoir garder cet anonymat et aussi utiliser le faux pour montrer le vrai. Parce qu'une des grandes questions pour moi dans ce film, c'est qu'est-ce qui est l'ordre de la réalité, qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve, qu'est-ce qui est de l'ordre du jeu, qu'est-ce qui est de l'ordre... voilà, tout ça est présent en permanence. Et donc, ça a été très long. J'ai mis 5 ans à trouver les personnes qui pourraient faire ça. Parce que tout le monde ne manipule pas ce genre de...
Et peut-être la technologie aussi a évolué ces toutes dernières années avec l'IA.
Alors, ça a évolué, mais presque... Enfin, quand j'avais décidé de faire ça, c'était déjà possible. Ce qui était vraiment compliqué, c'était de trouver les personnes. Là, en fait, je voulais absolument pas qu'on fasse quelque chose dont personne ne se rende compte. Ça, c'était hyper important. Je voulais qu'on sache que les visages ne sont pas les leurs. Donc, on est même revenu en arrière des avancées technologiques.
C'était trop parfait.
Voilà. J'ai dit, on s'arrête. Donc, c'était dire qu'il y a un travail créatif n'est pas du tout quelque chose de à côté de la plaque, parce que c'était vraiment un vrai travail de création avec les deux personnes formidables qui m'ont aidé à faire ça, qui ont fait ça en un temps record avec vraiment très très peu d'argent et qui ont compris ce que je souhaitais faire en fait, et jusqu'au moindre détail, et pourquoi je voulais garder parfois, parce qu'on peut se dire que eux, ce qu'ils auraient aimé, c'est que ce soit parfait, mais ils ont tout à fait compris le sens politique de l'imperfection de tout ça. Et il y avait encore une autre
question. Non, je pense que c'était tout.
Moi, j'avais juste une petite question, enfin, rebondir ce que vous venez de dire sur les visages. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'on sent le visage qu'on ne voit pas sous le visage que vous nous montrez. Et donc, il y a une forme de schizophrénie comme ça, qui est aussi peut-être celle de toute institution de ce genre.
Enfin, oui. Et cette technologie est vraiment basée là-dessus. C'est-à-dire, le face swap, c'est on plaque on prend un visage qu'on met sur l'autre visage et il se conforme à sa morphologie, et du coup ça les mélange et ça crée un visage qui n'existait pas auparavant, qui est un mélange de l'un et de l'autre, mais qui comme il prend une autre morphologie et qui garde toutes les expressions. Alors il y a certains moments où on sent que c'est très plastique, ça c'est logique puisque ça reste très informatique. Moi je voyais que il y avait les bouches remontent pas complètement pareil parce que c'est pas exactement les mêmes morphologies, mais vraiment c'est très très bluffant, et ça m'intéressait là-dessus, c'est-à-dire que les expressions, le langage corporel dit énormément. Ces gens avec qui je peux pas parler, oui.
La voix aussi,
je pense. La voix aussi, ouais. Mais dans ce qui ne peut pas être dit, les corps disent plein de choses. Et donc, il fallait surtout pas perdre ces expressions. Et par ailleurs, il y a une chose à laquelle je tenais absolument, c'était quand on plaque des visages comme ça, si on intègre les yeux, là, ça devient vraiment des robots. Donc, du coup, j'ai demandé aux personnes avec qui j'ai travaillé, Louise Bonizek et Lucas Latil, s'ils étaient d'accord, parce que ça allait être un travail énorme, mais de détourer tous leurs vrais yeux. Parce que je voulais qu'on garde tout ce qui se passait au fond des regards, qui sont aussi importants que les expressions.
Et c'est vrai que ce procédé technologique très moderne, en fait, il vient se greffer sur une écriture documentaire qui, elle, s'inscrit dans une forme de tradition très solide. Hein. On pense évidemment à tous les cinéastes qui ont investi, les grands cinéastes qui ont investi une institution, Wiseman, voilà, c'est toujours un peu les mêmes concepts.
Moi, j'adore Wiseman, je suis très contente.
Et est-ce que, justement, vous êtes allé voir du côté de ces réalisateurs-là, comment enfin, quelle approche ils avaient choisi et quel angle ils avaient voulu utiliser pour rentrer dans ces endroits fermés.
Moi, j'adore Wiseman et son travail, et notamment son film Law and Order, qui est donc un film sur la police dans les années 60, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. J'ai pas cherché à faire pareil que lui. Et puis en plus, Wiseman, il a quand même un avantage énorme, c'est qu'il est avocat, donc il rentre partout où il veut, ce qui n'était pas mon cas.
Il sait où il met les pieds, quoi.
Ouais, et puis il s'est protégé par avance de tout, et on pourra l'empêcher de rien une fois qu'il y est. J'ai pas cherché particulièrement à faire... Je suis aussi très, très fan du travail de Kiarostami, qui est quelqu'un qui a fait des films qui ont contourné la censure tout le long de sa vie, et on se rend compte de rien si on les regarde comme ça de prime abord. J'avais ces deux grands monsieur dans la tête pour travailler, mais j'ai pas. En fait, c'est assez instinctif. Je cherche pas à faire. Je cherche à faire en sorte que ce soit possible de. Je veux pas venir voler aux gens leur image. Donc tout ce temps que je passe préalablement, il sert aussi à ça. Est-ce que s'ils ont envie de me dire ça nous va pas que tu sois là, on le sent pas, tu t'en vas, ben je m'en vais. C'est plutôt. Donc ça, je pense que c'est suivant qui on filme, il n'y a pas de méthode, quoi.
Vous avez parlé de vos collaborateurs sur l'image visuelle, mais il y a aussi une autre collaborateur qui nous est très familier parce que nous l'avons accueilli l'année dernière sur nos plateaux, Patrick Chia sur le montage. Comment vos chemins se sont croisés? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu?
Patrick, c'est un très bon ami qui, par ailleurs, est genre la personne qui m'a le plus accompagnée sur ce film depuis le début de son écriture, puisque comme on est amis et qu'on travaillait un peu par ailleurs ensemble, il suivait le processus et c'est venu assez naturellement de sa part à la fin, parce que ça a été très compliqué ce film à produire, à tourner, enfin bon, il y a eu plein de péripéties et sur la fin il m'a dit mais en fait on va faire ça ensemble. Je sais pas s'il sera d'accord avec moi que je dise ça, mais moi je trouve qu'on a des visions du cinéma qui sont très proches, même si on a notre manière de travailler est très différente, nos films aussi, mais on est très proche dans notre manière de penser et notamment le documentaire. Enfin voilà. Du coup c'était assez évident et pour moi très fluide et très joyeux et très rassurant de travailler avec lui et je suis vraiment très très contente du montage de ce film.
Vous avez dit que vous avez passé 5 ans sur la production, la préparation de. Je pense que c'était 3 repérages, c'est dans les 5 ans ou après pardon, en dehors de 5 ans
Ce film, en tout, ça fait 9 ans que je travaillais sur ce film. Et oui, je dirais qu'il y a eu 4 années perdues pour plein de raisons. Enfin, notamment, il y a eu au milieu de tout ça aussi un Covid, des salles de cinéma fermées, une production qui se désengage. Enfin, ça a été vraiment hyper chaotique. Je dirais que le film, en tout, ça m'a pris 5 ans. Et puis qu'il y a eu des pauses forcées à cause de plein d'autres choses sur le chemin.
Mais entre-temps, pas mal des événements sociaux, politiques ont eu lieu qui peut possiblement impacter la réception, la manière dont on perçoit la force policière, justement. Mais est-ce que vous cherchez une sorte d'intemporalité, surtout sur le plan politique? Il me semble que vous placez, vous positionnez les questions autour de police dans un contexte plus national et transcende un peu le temps moderne, le contemporain. Donc, est-ce que c'est un parti pris que vous voulez absolument garder dès le départ ou comment c'est entré dans le film?
Oui, ça c'était dès le départ et je pense que ça c'est les postures un peu dont on parlait sur Wise Man ou ce film. Je le voulais, enfin. Totalement intemporel et donc à plein de reprises on me disait ah oui là c'est super parce qu'il se passe ça, là il y a les gilets jaunes et je disais non je m'en fous en fait puisque ça se passera toujours. En fait cette question c'est une question fondamentale, systémique et donc du coup ça peut empirer et donc ça ne sera que mieux pour se reposer la question, mais je voulais que ce film il puisse traverser les années donc c'était à la fois long et pénible de le mener à bien, mais en fait ça me perturbait pas parce que je savais que même dans 10 ans il serait encore regardable et on pourrait s'en servir pour discuter comme le film de Wise Man est encore tout à fait un objet qui peut nous permettre de discuter aujourd'hui. Donc oui c'était une intention.
Une dernière question sur il y a deux séquences très intéressantes qu'on dirait quasiment du sein d'un film de fiction, surtout quand il essaye d'arrêter quelqu'un dans la voiture et quand il y a des émeutes avec des lacrymogènes. Est-ce que vous voulez changer la chronométrie, le changement de couleur? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce sein?
Merci de me poser cette question. L'interview va redurer une demi-heure. Non, pardon. Oui, absolument. En fait, ce que je voulais, c'était que ce qui m'arrivait à moi quand j'étais là-bas, le spectateur le ressente aussi. C'est-à-dire, j'y suis allée, je me suis complètement immergée. J'avais envie de sentir, d'être avec eux, d'être dans leur réel. Et parfois, je me reculais un peu et je reprenais ma respiration et je me disais, ah là, c'est ça qui est en train de se passer. Et je me rendais compte, dans ces moments-là, que je m'habituais moi-même à la violence. Qu'elle devenait, que des choses que j'aurais pas supportées avant d'entrer, au bout des quelques années que j'avais passées là, ça me paraissait. Alors évidemment, quand je repartais dans ma vie normale, en très peu de temps, ça me paraissait plus logique, mais je sentais que ce mécanisme était en route. Et du coup, je toujours dans cette idée de qu'est-ce qui est le réel, qu'est-ce qui est le rêve, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui change en fonction de où on se trouve et ce dans quoi on est immergé. Ces séquences-là, pour moi, c'est des moments où le film bascule un peu. Je me recule et on passe dans une autre dimension. Et puis on replonge à chaque fois dans ce réel, mais pour s'enfoncer un peu plus dans quelque chose de plus complexe. C'est le principe initiatique, quoi.
Et je vais en rajouter une couche, je suis désolé. Ouais. Hein. On va avoir le prix Jeannine Bazin de l'interview la plus longue de la semaine, je pense.
Je suis désolée. Merci pour cette générosité, Lisa.
Non, mais c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Forcément, vous avez cité Kiarostami tout à l'heure, bah, on pense à lui, du coup. Mm. Et moi, c'est la question que je peux vous poser, c'est après ce travail documentaire, est-ce que elle est un petit peu, justement, commencer à aller dans ce territoire de fiction, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, du coup?
Moi, je fais pas de différence entre le documentaire et la fiction. Je pense qu'un film, c'est un film, et que quand on fait une fiction, on se documente beaucoup, et qu'il y a des bouts de réel dans tous les sens, et que quand on fait un documentaire, on modifie forcément le réel, ne serait-ce que par notre présence, et qu'il y a du coup notre imaginaire, notre point de vue, tout ce qu'on a dans les tripes en arrivant, qui existe, qui est là, qui vibre de partout. Donc j'ai l'impression que... Mais oui, c'est des choses très différentes. En termes de financement, c'est des choses absolument différentes. En termes de potentielle lourdeur de tournage aussi. Mais j'en sais rien, en fait. Plutôt, j'adore le documentaire, mais...
Vraiment, merci beaucoup pour ces échanges très, très généreux avec nous, Lisa Guillamotte. Merci beaucoup.
Merci.
Le film a déjà passé une fois. Est-ce qu'il y aura une autre projection dans le prochain jour ou...
Samedi soir.
Samedi soir, à 20h, ouais. Zone grise. Merci beaucoup, Olivier et Nicolas. Voilà, c'était le Fluxfort, deuxième plateau de jour.
Merci.
Merci.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.